Du coup, je suis obligé de demander à Olivier Besancenot, qui est dans ce studio, quel est son scénario pour 2017, élection improbable ou élection probable, vous choisissez, Olivier
Petite
Besancenot.
Qu'est-ce que vous fassiez Je sais pas, on me suggère la réponse. Non, mais ce que je retiens, moi, c'est qu'en effet, je pense que tout est vraiment possible, que ça soit l'échéance électorale comme la vie politique de façon plus globale. Voilà, c'est-à-dire que l'idée qu'il y a une vision comme ça cristallisée des choses avec une montée inexorable de tels mouvements, y compris de Marine Le Pen, qui en effet marque des points, mais ça j'y crois pas du tout, parce qu'on est en train de vivre, on l'évoquait tout à l'heure sur la dimension européenne, et la France n'est pas coupée du monde. Il y a une crise politique majeure, au-delà de la crise sociale et de la crise économique, il y a une crise politique majeure, et le jeu de l'alternance fonctionne de moins en moins.
C'est-à-dire pourquoi vous n'y pensez pas que Marine Le Pen puisse être au second tour, être élu? C'est ce scénario qui vous paraît improbable?
Ah non, je vous dis, tout est possible, le meilleur comme le pire. Le meilleur comme le pire. Et moi, ce que j'en tire comme conclusion politique, c'est que il y a une course de vitesse qui est enclenchée entre les forces, moi je les appelle les forces anticapitalistes, on les appellera comme on voudra, d'un côté, et de l'autre côté, des forces nationalistes d'extrême droite.
Le Front National, il est dans les forces anticapitalistes?
Non, il est dans les forces d'extrême droite. Enfin, quand même, j'imagine qu'on en est encore tous convaincus. Et puis c'est d'ailleurs un des points communs entre la France et le restant de l'Europe. On assiste à ça un peu partout. Je vous dis parce que le jeu de l'alternance a pris du plomb dans l'aile. Jusqu'alors, en gros, un parti de gauche traditionnel allait au pouvoir. Bon, il faisait une politique globalement néfaste. Il se faisait éjecter du pouvoir. La droite traditionnelle prenait le relais. Elle faisait une politique néfaste. Elle était cramée. Elle se faisait éjecter du pouvoir. Sauf que le parti d'opposition avait le temps de se refaire une santé. Il revenait au pouvoir. Et puis c'était ça le jeu d'alternance. Sauf que là, le propre d'une crise politique, c'est que le temps s'accélère. Et c'est ça qui fonctionne plus. Et du coup, ça crée des espaces politiques nouveaux. Et c'est pour ça que j'insiste dans le cadre des mobilisations sociales actuelles, où des gens vont finalement sur la scène politique en tant que telle. C'est là où il y a de l'espoir, parce que c'est là où on peut accélérer un petit peu plus encore le temps et fixer notre propre agenda.
Olivier Besancenot, je vous parlais tout à l'heure du Front National. Il y a aujourd'hui un ancien du NPA qui gravit les échelons du Front National. Il a été candidat malheureux pour la LCR au municipal de 2008. Il s'appelle Aurélien Legrand et il est devenu numéro 2 du rassemblement Bleu Marine. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah que je vais être amené à commenter probablement sa progression à peu près tous les mois, puisque c'est déjà une question qui nous a été posée il y a plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois qu'il est rentré au Front National. Quoi dire à part qu'il s'était trompé en rentrant chez nous?
Vraiment, il s'était trompé?
Moi, c'est la seule conclusion politique que j'en tire.
Mais pour vous, c'est une anomalie individuelle, c'est un homme qui a eu...
Moi, des commentaires personnels ne m'intéressent pas. Ce que je peux vous dire, en tous les cas, et pas simplement l'afficher comme notre carte d'identité politique, si vous voulez, c'est notre patrimoine génétique. On est profondément antiraciste, on est profondément antifasciste, et nous, on lutte contre l'extrême droite. Après, parcours individuel des uns des autres, je ne peux pas les commenter outre mesure.
D'ailleurs, dans votre novlangue, car vous publiez un petit dictionnaire de la fausse monnaie politique où vous rectifiez à votre avis ce qui représente en quelque sorte le langage policé du capitalisme des médias, vous choisirez. Vous dites, vous choisissez comme phrase qu'il faut rectifier, je ne suis pas raciste, mais...
Alors plus que rectifier, si je peux me permettre, c'est questionner. Voilà, moi, le but de l'ouvrage, c'est pas de donner, je l'explique en introduction, la bonne façon de parler, parce que ce serait substituer une forme d'autoritarisme à l'autre. En revanche, prendre le temps, là aussi, de se poser, de réfléchir aux formules et aux mots, je pense que ça a son intérêt, parce qu'on le fait pas assez du côté des exploités, des opprimés, on a beau être des millions, du côté des classes possédantes, les gens prennent le temps de réfléchir au vocabulaire qu'on finit par utiliser en parlant de nous-mêmes. Alors, entre autres, dans ces formules, il y a en effet ce que j'entends de temps en temps, je suis pas raciste, mais... Donc je préfère leur dire, écoute, arrête de faire deux fois le tour du périph' et dis-moi la vérité tout de suite, comme ça ce sera plus simple pour discuter.
Pourquoi l'expression musulman modéré vous déplaît-elle?
Parce qu'elle est cocasse. C'est pour ça que je fais allusion au sketch d'un humoriste qui dit, c'est quoi un musulman modéré? C'est quelqu'un qui fait quoi? Deux fois et demi la prière par jour plutôt que cinq fois? Ça n'existe pas, parce qu'on le dit pour telle communauté religieuse, on ne va pas l'utiliser pour d'autres communautés. Donc derrière des mots, des appellations qu'on répète finalement systématiquement, il y a derrière ça l'air du temps, et dans l'air du temps il y a du racisme, il y a aussi de l'islamophobie.
Frédéric Saïs.
Une question autour de ces mots que vous rectifiez. Alors effectivement, vous êtes assez convaincant dans pas mal de domaines. Par exemple, quand on parle de charges et non plus de cotisations sociales, vous rappelez que c'est un revenu qui est socialisé, qui est différé. En revanche, j'étais assez surpris, page 27, quand vous évoquez « Je suis Charlie », un slogan, dites-vous, qui est devenu le charlisme peu à peu et qui met au banc l'esprit critique. Ce sont vos mots. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une dénaturation finalement d'un mouvement et d'une expression spontanément solidaire, solidaire à la fois avec les victimes des attentats, solidaire aussi avec la volonté de revendiquer son attachement à la liberté d'expression, avec une récupération et une instrumentalisation politique, où finalement on a eu quelques jours après un espèce de grande machine qui s'est mise en place, où on a fini par traquer celui qui n'était pas Charlie. Tu l'es ou tu ne l'es pas. À l'inverse même de l'esprit critique et de la liberté d'expression. Donc c'est en ça qu'il y a eu une espèce d'inversion des normes, mais visiblement ça, c'est à la mode en ce moment, sur laquelle j'ai voulu en effet insister comme sur d'autres mots. Ouais.
Mais il y a eu un soupçon à l'égard du nouveau parti anticapitaliste, Olivier Besancenot, un soupçon sur un accommodement avec une certaine forme de communautarisme, notamment la question du voile, notamment la question d'un certain nombre d'alliances avec une frange non pas des musulmans modérés, puisque cette expression vous déplaît, mais de musulmans qui seraient radicaux ou en tout cas enfermés dans le communautarisme. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous font ce reproche ?
Qui nous suivent de près, et puis l'affaire sera réglée. Mais une nouvelle fois, je ne suis pas quelqu'un qui rectifie, je ne suis pas quelqu'un qui distribue les bons et les mauvais points en expliquant telle expression est bonne ou elle n'est pas bonne.
Non, mais j'aimerais au-delà de l'expression.
Non, parce que vous venez de le dire, c'est pour ça que l'expression m'intéresse aussi quand vous la formulez. J'aimerais qu'on se pose collectivement sur des expressions, y compris en effet quand on parle de laïcité, quand on parle d'islam. Important, derrière les mots, au-delà des désaccords qu'on peut avoir sur tel positionnement de telle organisation politique, de se poser pour réfléchir sur les mots. Quand le mot laïcité, par exemple, est instrumentalisé par le Front National, ou le même soir, je l'écris dans le livre, on a une Marine Le Pen qui met ça comme quatrième valeur fondamentale de la République française, la laïcité, et où dans le même temps, le même soir, M. Philippot explique qu'il est pour le maintien du concordat en Alsace et en Lorraine, c'est-à-dire le fait qu'on va continuer avec l'argent public à financer des ministres de culte. On peut se dire que derrière ça, il y a en effet pas simplement une instrumentalisation, mais qu'il peut y avoir la tentative sémantique de faire de la laïcité le cheval de Troie d'une lutte islamophobe, alors que pour moi, la laïcité, c'est un terme que je m'approprie également, auquel moi je suis attaché, mais la laïcité, c'est le vivre ensemble, c'est-à-dire la garantie collective qu'aucune religion ne prend le pas sur l'autre, ni ne prend le pas sur la société dans son ensemble, et ça veut dire vivre ensemble, et vivre ensemble, pour moi, c'est contradictoire avec toute forme de stigmatisation raciste.
Brice Couturier.
Pour revenir sur le charlisme, quand il y a eu les attentats de novembre, vous avez fait un communiqué du NPA, je cite « Cette barbarie abjecte en plein Paris répond à la violence tout aussi aveugle et encore plus meurtrière des bombardements perpétrés par l'aviation française en Syrie ». Or, dans votre petit dictionnaire là de la fausse monnaie politique, vous avez un article « Barbarie » et je cite sa conclusion « La barbarie montre de multiples visages, ceux des guerres occidentales en font partie ». Est-ce que vous faites vraiment un équivalent entre les bombardements de Daesh par l'aviation française et les gens qui ont massacré les auditeurs de musique rock au Bataclan?
Je dis qu'il ne faut pas avoir de révolte sélective face à la barbarie. Ouais. Et pour moi, la barbarie, on la ressent et je l'ai ressenti au
mais
même
Daesh,
titre.
Daesh, c'est des barbares, non?
Je l'ai ressenti. Mais
est-ce que Daesh, c'est des barbares pour vous?
Alors, attendez, on n'est pas dans un interrogatoire. C'est derrière le mot barbare, justement, si vous avez lu cet intitulé jusqu'au bout, j'essaie d'expliquer que derrière le mot barbare, on met tout et son contraire. Pour moi, la barbarie, c'est le contraire du projet de civilisation auquel moi je suis attaché. Donc, le projet de civilisation de Daesh, c'est l'opposé exact de la liberté d'expression, de la possibilité d'émancipation, de la possibilité de vivre même, je dirais, de façon égalitaire. Donc en ça, pour moi, c'est l'opposé de la civilisation.
Mais est-ce qu'il faut les combattre ?
Vous posez la question à un internationaliste qui, comment dire, travaille à son échelle avec des organisations militantes qui subissent au jour le jour les massacres de Daesh en Syrie, d'accord ? Ou aux côtés des Kurdes, par exemple. Donc, puisqu'on n'est pas sélectif, oui, on a été manifesté, par exemple, où là, j'ai entendu beaucoup moins de voix politiques.
Est-ce qu'il faut les combattre en les bombardant, par exemple?
J'allais y venir. Quand, par exemple, Kobané était assiégé, on a été manifesté auprès d'une organisation, d'ailleurs, qui figure dans les organisations toujours reconnues comme terroristes, je pense au PKK. Que réclame le PKK aujourd'hui? Que réclament les Kurdes de Kobané? Ils ne réclament pas des bombardements. Ils réclament un couloir politique, économique et militaire, en effet. C'est-à-dire que les frontières turques s'ouvrent pour que les armes puisse arriver. Or, vous le savez comme moi, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, le gouvernement Erdogan ouvre ses frontières aux combattants djihadistes, les ferme à ceux qui voudraient venir.
Pétrole.
Voilà. Donc la question qui est posée, c'est ça, c'est des aides. Moi, je suis pour aider ceux qui réclament exactement quelque chose de concret. Et ce que réclament les combattants qui s'opposent à Daesh comme à la dictature d'Assad d'ailleurs, c'est pas des bombardements. Voilà, c'est en tous les cas moi l'idée que j'en ai.
Dans le parallèle entre les bombardements occidentaux en Syrie et en Irak et la barbarie de Daesh qui a perpétré des attentats en plein Paris, il y a le slogan qu'on a beaucoup entendu, « Vos guerres, nos morts ». Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de chronologie là-dedans, voire de propagande ? Il y a Jean-Pierre Filu, qui est un chercheur reconnu sur ces questions, qui publie un article dans Le Monde et qui fait remarquer que Daesh, l'État islamique ou cette mouvance n'a pas attendu que la France intervienne en Syrie et en Irak. Il y a eu Mohamed Merah, il y a eu la tuerie du musée juif par Mehdi Nemmouch. Et la France, à l'époque, la dernière chose qu'elle avait fait, c'était ne pas intervenir en Irak en 2003. Autrement dit, est-ce qu'en mettant en parallèle cette intervention de la France au Proche-Orient et les attentats, comme s'il y avait une représaille, un mythe des représailles, dit Jean-Pierre Filu, est-ce qu'on ne donne pas dans la propagande de Daesh ?
J'espère que non. En tous les cas, ce serait offensant de le dire. Dans le livre, j'essaye, et je reviens d'ailleurs, sur l'existence et les bases matérielles, donc l'historique de Daesh, qui en effet pas lié uniquement à une intervention militaire française. Vous avez tout à fait raison, et je l'écris d'ailleurs. Pour moi, il y a deux actes...
Vous écrivez le contraire dans votre fameux communiqué que j'ai cité. Cette barbarie abjecte en plein Paris répond à la violence alors, écoutez, tout aussi aveugle et encore plus meurtrière.
Je pense que notre communiqué, je pense qu'à la fin de l'émission, on le connaîtra à peu près par cœur, mais là, je vous invite à lire le livre. Dans le livre, après ça se discute. Moi, je fixe deux actes fondateurs à l'existence de Daesh. L'intervention militaire américaine en 2003, en Irak. Absolument, à laquelle n'a pas participé la France à l'époque, vous avez raison. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a eu un renversement et dans le cadre de l'occupation militaire américaine, il y a eu une insurrection sunnite dans laquelle, en effet, les pétromonarchies du Golfe ont financé des groupes terroristes qui se sont alliés à une partie de l'ancien appareil militaire de Saddam Hussein. Ça, c'est le premier acte fondateur. Le deuxième acte fondateur, et j'insiste là-dessus, et la France est impliquée, c'est l'attitude coupable des puissances occidentales par rapport à la révolution syrienne de 2011. C'est-à-dire, on est passé du rien au tout, on a laissé crever les révolutionnaires syriens qui allaient manifester et qui réclamaient de pouvoir se protéger contre la dictature d'Assad, et tout à coup on est passé au substitutisme traditionnel des puissances impérialistes, où on passe au bombardement sans venir en aide concrète à ceux et celles qui se battent.
Donc ça explique en partie les attentats ?
Bah écoutez, oui, ces politiques internationales, elles ont une conséquence. Enfin, j'imagine que je suis pas le seul à le penser, parce que sinon c'est terrible. Si on n'est plus capable de comprendre, et je reviens là aussi, sur cette expression de Manuel Valls, vous savez, dire... faut pas comprendre. Mais quelle forme de violence ? Bien sûr qu'il faut comprendre. Parce que comprendre, ce serait déjà justifié. Non, on a intérêt à chercher à comprendre les bases matérielles de l'existence de Daesh. Parce que c'est tentant de penser que ce ne sont que des dingues et des barbares. Mais j'essaye de souligner dans le livre qu'il y a malheureusement des bases matérielles à l'existence de Daesh. Il y a une politique internationale qui explique ça. Et puis aussi l'état de nos sociétés aujourd'hui.
Olivier Besancenot, nous sommes sur France Culture. Vous publiez un petit dictionnaire de la fausse monnaie politique où vous vous intéressez aux mots. Quels sont vos goûts culturels ? Qu'est-ce que vous aimez en matière de littérature, de musique ?
Bah écoutez, j'aime lire, évidemment, d'abord pour apprendre. Donc je m'intéresse à des périodes historiques. Ça, c'est, je dirais, mon fil conducteur dans mon engagement militant. Je peux relire encore récemment Les Rio Sarcès sur la révolution de 48, qui, c'est bon, par exemple, c'est quelque chose qui me travaille en permanence. Pour des livres de réflexion, un livre que je fais en ce moment, Jacques Rancière. Voilà, qui est pour moi une grande révélation en termes de compréhension de beaucoup de choses, parce que j'ai pas de réponse sur tous les sujets. Le maître ignorant, par exemple, où il part d'une idée un peu à contre-courant, l'idée de dire faut pas partir de l'inégalité présupposée, mais partir de l'égalité présupposée. Alors dans le domaine éducatif, je sais pas forcément ce que ça signifie, mais au niveau militantisme, je trouve ça extrêmement important. C'est-à-dire l'idée, finalement, qu'il faut pas partir de l'idée qu'il y aurait ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et c'est aussi une des critiques, une autocritique qu'on pourrait faire, y compris à la gauche radicale, c'est l'idée qu'en gros, il faudra des gens qui expliquent à la masse qui n'a pas compris. Ben moi, je pense que la masse des exploités, des opprimés, a compris. Elle sait à quel point elle est exploitée. Le problème, c'est des cadres de confiance qui nous permettent de passer à autre chose. C'est un peu le cas du mouvement dont on parlait. Puis je peux lire des polars, par exemple Massimo Carlotto, voilà, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et puis de la musique. Moi,
c'est qu'est-ce que vous écoutez
culture, plutôt culture hip-hop. J'étais voir,
par exemple
Joey Starr, j'étais le voir récemment à l'Olympia.
Lorsque celui-ci, dans une scène très largement popularisée, a giflé un chroniqueur de l'émission « Touche pas à mon poste ».
Cette question-là.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Sur France Culture, quand même.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Laissez-moi espérer qu'il y a au moins un espace médiatique où on pousse plus ce genre de questions, c'est bien France Culture.
C'est a priori un spectacle.
Par respect pour France Culture, je ne répondrai pas à cette question.
Ou par respect pour Joey Starr.
Une question.
Ah, moi, je suis, en plus d'être un admirateur, je suis son pote, voilà, bien sûr.
Donc c'est pour ça que vous ne voulez pas répondre ?
Non, mais c'est quand même, écoutez, on n'en est pas à ce niveau de régression. J'arrive pour essayer, à mon humble mesure, pour essayer de vous convaincre que, à l'invitation d'un éditeur qui nous a quittés, qui s'appelle Pierre Drachlin, qui m'avait dit « Penchez-vous, Olivier, sur cette question des mots et du vocabulaire pour justement prendre le temps de quitter un peu de temps en temps la surface des choses. » Donc, ne me ramenez pas à l'émission de Cyril Hanouna, je vous en prie.
En revanche, sur la Frédéric culture « jeune » entre guillemets qui vous entoure, vous dites le formatage des esprits est partout, là encore pour parler des mots, et vous dites y compris dans FIFA, le jeu vidéo de football, c'est-à-dire.
Bah, c'était une grande révélation. À mes dépens, j'ai été fouillé dans une console que j'avais offert à mon fils. Et en effet, quand vous rentrez dans cette console, et bah, vous franchissez chaque étape dans un cadre qui n'est plus rien de sportif. Vous devenez finalement un riche investisseur. Vous pouvez rentrer dans un conseil d'administration. Vous avez tel chiffre d'affaires. Vous achetez les joueurs et vous rentrez finalement, ce que je dis dans le livre, dans les vestiaires de l'économie de marché en deux temps trois mouvements. Alors que vous avez finalement 7 ou 8 ans. Voilà. Et c'est quand même des questions à se poser parce que ça, c'est entre les mains de n'importe qui.
Brice Couturier.
Je voudrais vous citer Raymond Aron, ça va vous surprendre. Ça, voilà des lectures que je pourrais vous indiquer. On a les mêmes, hein, parce que Victor Klemperer, c'est une de mes grandes inspirations. Mais bravo de l'avoir utilisé. Juste cette citation d'Aron, commentaire. Le penchant à la révolution est en proportion directe de la difficulté de modifier l'état des choses existantes.
Olivier Besancenot.
Discussion.
Ouais.
Pour moi, la révolution, c'est pas le grand soir. Pour moi, la révolution, c'est d'abord un mouvement et un processus de ceux et celles qui décident à un moment donné de prendre en main leur propre destin. Donc moi, je suis toujours partisan d'une bonne vieille révolution, donc probablement que ça paraîtra ringard à plein de gens. Je pense qu'il faudra une rupture révolutionnaire parce qu'on n'y coupera pas, mais je fais partie de ces révolutionnaires qui pensent qu'il faut changer les choses ici et maintenant. Et dans l'ici et maintenant, il y a l'idée qu'à un moment donné, on peut, par exemple, enfin, c'est comme ça que moi je l'interprète, réfuter l'idée qu'il y a des gens qui décident en notre nom. Et c'est pour ça que je vous dis, je crois que vous l'évoquiez tout à l'heure dans votre billet, la politique traditionnelle, professionnelle, pour moi, elle est morte. Ceux et celles qui vivent de la politique, à partir de là, tout est biaisé. Parce qu'il y a des gens qui se présentent à vous, qui vont avoir ça comme fiche de paye, qui pourront plus ou moins bien parler, mais à partir de là, tout sera biaisé. Donc ça, en revanche, je ne crois pas y entrer plus que ça dans le détail dans le livre, mais il y a des mesures, y compris...
Des politiques amateurs, donc vous êtes pour des politiques amateurs,
ouais,
non rétribuées.
C'est tentant, évidemment, de botter en touche en répondant ça, mais non, plus que amateur, je dirais militante. Voilà, parce qu'amateur, ça donnerait un côté un peu péjoratif. Mais ça voudrait dire, par exemple, qu'il y a des mesures très concrètes qu'on pourrait prendre. Non seulement interdire le cumul des mandats, mais constitutionnaliser la rotation des mandats. C'est-à-dire, ça se discute, on peut discuter du chiffre, mais faire en sorte qu'on ne puisse pas faire plus de 2 mandats au cours de sa vie. Puis ensuite, on retourne au boulot. Et puis surtout, plafonner la rémunération des élus. Quand on a un mandat, on le fait. Hein. Moi, je ne fais pas démagogie, on ne peut pas avoir un mandat et bosser à côté. Mais quand on le fait, on est censé représenter la majorité de la population. Donc pourquoi on gagne plus d'argent que le salaire moyen de la majorité de la population, par exemple? Ça, ce serait peut-être le moyen d'instituer une politique militante plus qu'amateur, en tous les cas. Mais en tous les cas, en finir avec une politique professionnelle dans le sens institutionnel, job, marchandise.
C'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas vous présenter à la présidentielle, Olivier Besancenot?
Bah, c'est une des conséquences pour lesquelles, en effet, comme la dernière fois, j'ai essayé de prouver avec mon parti que chez nous, on n'était pas attaché au poste, pas même au poste de candidat. Voilà, qu'on n'était pas attaché à cette idée.
Vous n'avez pas de regret? Vous n'avez pas envie d'y aller?
Ah non, moi j'ai aucun regret. Moi, mon candidat, c'est Philippe Poutou. Je suis très fier de pouvoir mouiller la chemise pour lui. On obtiendra ses signatures et Philippe Poutou, ça sera un des rares dans cette campagne à pouvoir parler de la vie quotidienne de millions de personnes que lui, en tant qu'ouvrier de l'automobile, par exemple, connaît un peu plus que plein d'autres qui vont nous en parler avec plein d'entrain, alors qu'en réalité, ils ne la connaissent même pas.
Frédéric Saïs.
Alors, vous insistez donc dans ce livre sur le pouvoir des mots pour éclairer ou embrouiller les concepts, c'est selon. Alors, pourquoi vous avoir changé le nom de votre parti, Ligue communiste révolutionnaire? Ça disait bien ce que ça voulait dire. Vous vous définissiez parce que vous étiez. C'est devenu NPA, nouveau parti anticapitaliste. Autrement dit, vous vous définissez par ce contre quoi vous êtes. Est-ce qu'on n'est pas là aussi dans l'élément de langage?
Alors, vous avez complètement raison. D'ailleurs, c'est une des conclusions. J'ai eu deux réflexions à la fin de cet ouvrage. Je me suis dit d'abord, c'est qu'une invitation à continuer à l'écrire parce qu'il manque, ne serait-ce que du point de vue du langage, de l'ordre et du marché sur lequel je me suis penché, plein d'autres termes. Et d'ailleurs, j'invite... Il y en a d'autres qui ont travaillé là-dessus. Hein. Je pense à l'association Acrimed, par exemple, ou des syndicalistes. Mais c'est vrai, la deuxième réflexion que je me suis faite, c'est notre propre dictionnaire. Mais ça sera un autre chantier. Mais derrière les mots, il y a le poids de l'histoire. Et puis, il y a le poids aussi des limites politiques. Nous, notre problème, il n'est pas tant sémantique. C'est un problème de fond. C'est comment réhabiliter un nouveau projet de société anticapitaliste qui soit crédible et qui refasse vibrer des millions de personnes. Nous, on a un siècle politique qui pèse sur nos épaules. C'est que le mouvement ouvrier qui a donné un sens collectif, individuel à des millions d'exploités d'opprimés, ça s'est terminé dans des caricatures sanglantes, celles des expériences de l'Est. Et au fond, on a eu deux types de sociétés jusqu'à présent. On a eu la société capitaliste où une minorité d'actionnaires décide pour la majorité, des sociétés bureaucratiques où une minorité d'apparatchiks décide pour la majorité. La seule société auquel on n'ait pas eu droit, c'est une société où la majorité déciderait pour elle-même. Alors comment elle s'appellera ? Je vous avoue, pour l'instant, j'ai pas forcément de réponse à ces questions-là.